penche la guitare, penche la guitare, penche la guitare,
1, 2,
penche la guitare,
3, 4.
Je dois vous dire que tout ça fait un peu bricoler.
Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'esthétique, mais la science créatrice et la connaissance technologique.
Les empreintes musicales. Franck Amouroux.
Bonjour à toutes et à tous, c'est la dernière partie de cette série de 4 émissions consacrée à l'entrevue avec Jacques Higelin en novembre 2004 à Lorient. Je suis Franck Amouroux, bienvenue dans cette émission Les empreintes musicales. Sur cette dernière session d'enregistrement, nous constaterons que Jacques Higelin est beaucoup plus volubile qu'au début de cet entretien, a ouvert son cœur pour évoquer avec générosité ses passions, ce qui l'anime. En préambule, je reprends le cours de l'histoire de la biographie de Jacques Higelin, là où je l'avais laissé à la précédente émission. Nous découvrirons aujourd'hui son parcours qui débute en 1990. Nous partons ensemble pour 30 minutes. Merci de nous accompagner.
Les empreintes musicales.
En 1988, c'est la publication de l'album « Tombé du ciel » qui révélera Jacques Higelin au plus grand nombre. Le titre éponyme a séduit le grand public. Ce titre s'inscrit désormais comme l'une des références de la musique populaire française. À l'aube des années 90, Higelin ralentit le rythme de ses productions discographiques, mais aussi de ses tournées partout en France et à l'international. C'est aussi le fruit de son union avec Aziza Zakine et la naissance de sa dernière petite fille, Isia Higelin, le 24 septembre 90, qui apportera sans doute une sorte de sérénité dans le cœur du Grand Jacques. Pour la partie discographique de cette décennie, en 1991, il sort Illicite, en 1994, Au héros de la voltige, puis en 1998, c'est son vieil ami Areski Belkacem qui réalisera l'album Paradis païen. En 1999, il est programmé le dimanche soir sur la grande scène Glenmore des Vieilles Charrues. Son concert, prévu juste après Pierre Perret, n'aura sans doute pas été à la hauteur des attentes du public de Kerempuil, tant la prestation de Pierre Perret, juste avant, avait déjà véritablement retourné le cœur des festivaliers. En 2004, c'est à l'occasion de cette nouvelle tournée Higelin enchante Trenet que nous aurons eu la chance d'obtenir une interview à un moment privilégié avec ce fantasque poète. Higelin a toujours revendiqué être influencé par l'écriture de Charles Trenet. À la sortie de la guerre, au début des années 50, Jacques n'était alors qu'un tout jeune enfant, mais il accompagnait déjà son père pour chanter. Son père, cheminot de profession, mais musicien amateur, interprétait les chansons de son idole pendant les entractes des séances de cinéma de Chelles en Seine-et-Marne. C'est précisément dans le cadre de cette tournée Higelin en chante Trenet que nous enregistrons cette rencontre. Quelques heures avant son concert donné en après-midi au parc exposition de la Nestère, dans le cadre de la Fête de l'Humanité Bretagne, en novembre 2004. En 2006, il enregistre l'album Amor Doloroso, qui sera réalisé par Rodolphe Burger, un disque qui évoque une certaine plénitude et le calme du moment dans la carrière du chanteur. C'est cette même année qu'il jouera sur la scène du festival Panorama à Morlaix. Invité par l'équipe du festival, il passera quelques temps avec Rodolphe Burger sur l'île de Bas. C'est la même équipe de réalisation qui accompagnera la production du nouvel album Coup de Foudre, sorti en 2010. Toujours actif, mais en évoquant un rythme plutôt calme, en 2013, c'est au tour de l'album Beau Repère d'être produit. Il jouera à Rennes la même année, dans le cadre du festival Mythos. Les organisateurs ravis avouaient courir après l'artiste depuis de nombreuses années. La salle était comble, il avait été hyper généreux ce soir-là, il se sentait bien dans cet environnement chaleureux, un peu à taille humaine. Plus tard, dans cette même année 2013, Jacques Higelin a joué aussi au festival du Bout du Monde de Crozon, le dimanche 4 août précisément. Sans doute l'une des dernières apparitions et représentations sur scène en Bretagne aura été à l'espace Avelvor de Plougastel d'Aoulas, près de Brest, samedi 18 janvier 2014. À À 75 ans, Jacques Higelin compose deux nouvelles chansons. L'album issu de cette dernière production sortira l'année suivante, en 2016. Ce sera malheureusement son dernier album, intitulé sobrement Higelin 75. Ce sont de belles ritournelles chantées, des invitations à la balade, un splendide dernier album. Jacques Higelin décède à 77 ans, le 6 avril 2018 à Nogent-sur-Marne. Il sera enterré tout près d'Alain Bachung, au cimetière du Père-Lachaise à Paris, division 1, chemin de la Vierge, ligne 1.
Les empreintes musicales.
Adolescent qui tend l'oreille aux divagations de ton fou. Je pense que ce titre issu de l'album « Au héros de la voltige » publié en 1994 correspond précisément à ce que l'on pouvait vivre de plus intense durant cette période. Un titre ténébreux, sombre, angoissant, voire même presque menaçant.
Adolescent qui tend l'oreille aux divagations de ton fou. J'aimerais parfois les nuits de veille t'offrir un siège au fond de mon trou.
Optimiste, toi, là.
Moi, je te dis, la base de ma croyance, c'est sur la générosité et la beauté de la vie. Et c'est vraiment la chose auquel je crois. Je crois parce que je le vois. Je ne crois pas parce que je voudrais je sais plus, il y avait un poète qui avait sorti une phrase en disant « Un optimiste est quelqu'un qui manque d'imagination. » Ben oui, si t'es pas capable d'imaginer ce que c'est que la douleur, par exemple, si t'es pas capable d'imaginer ce que c'est qu'un bombardement à Bagdad et ce que ressentent les civils, c'est soit quelqu'un qui a jamais connu ça, parce que moi j'étais bombardé, je sais ce que c'est, quoi, petit, ou soit quelqu'un qui n'est pas capable d'imaginer ce que ça peut être comme horreur. Et l'imagination est quelque chose qui te permet justement de lutter contre la terreur.
Et de veiller à ne pas être trop optimiste.
Ah, c'est pas d'être optimiste. Tu n'as pas le choix. Je veux dire, soit ça, c'est dangereux, ça se passe mal, et tu fais la gueule en plus, et tu te comportes mal là où tu te trouves, même dans un conflit. Il y a toujours eu des gens, même dans les camps de concentration, dans les camps de prisonniers, qui ont gardé le moral. Tu vois ce que je veux dire ? Tu rends compte le courage que ça représente ? C'est pour ça que des fois, je veux dire, c'est pas moi qui ai des leçons à donner aux gens qui résistent. Quand tu n'as personne autour de toi, que tu es dans un cachot et qu'on va te torturer dans 10 minutes, là, des mecs vont rentrer, vont te mettre des coups de pied et de l'électricité dans les couilles, tu te vois, toi ? Il faut du courage. Et là, on rentre dans une autre chose. L'optimisme BA, là, c'est pas mon truc, parce que Et ça n'est pas pessimiste que d'être lucide. C'est ça que je veux dire. Il suffit de lire les bouquins de Cioran, qui peuvent paraître, pour des gens qui le lisent en superficie et qui referment le bouquin en disant « c'est trop noir », pour comprendre qu'est-ce que c'est la vigilance, l'esprit critique. Ce sont des choses tout à fait nécessaires, sinon l'intelligence ne sert à rien. Et c'est pour désamorcer les bombes, pour désamorcer la violence, désamorcer le viol, pour lutter contre. Il y a une part de combat aussi, de lutte. Les choses n'arrivent pas comme ça, en claquant des doigts et en disant... C'est pour ça que je te dis que l'optimisme se nourrit parfois. On peut être optimiste si on est milliardaire et que... On a un yacht de 30 mètres de long, dirigé par un équipage, et que quand tu veux prendre des vacances, tu vas au soleil, sur ton yacht, dans les mers les plus belles du monde, sur une île que tu as achetée. Alors je comprends, ça c'est soi-disant pas triste. Ils peuvent se faire chier entre eux, mais la vraie vie, elle est entre les êtres humains, des fois elle est vraiment hard, quoi. Toute une région qui tout d'un coup est au chômage. C'est pas spécialement reluisant quand le père il rentre le soir ou la mère chez elle et qu'elle dit avec quoi je vais nourrir mes enfants. Et ça c'est non seulement en France mais encore pire dans d'autres pays du monde entier où les gens crèvent de faim. Il n'y a pas que la merde, c'est aussi ça. Il faut pas croire, quand je dis la merde c'est pas partout, c'est pas tout le temps. Mais heureusement, tu te rends compte ? Il y a plein d'endroits, il y a plein de petits lieux, d'endroits, de quartiers où la solidarité des gens joue, où malgré leurs conflits, mais les conflits c'est humain aussi, c'est pas une question de dénoncer, je célèbre la vie. Et par là même, ça dénonce automatiquement ce qui est suicidaire dans l'attitude de certains êtres humains qui ont le pouvoir sur les autres. Par exemple, Hitler, Hitler a commencé dans un café où ils étaient 4. Et après, ils étaient 8 et il est devenu le chef de 8 mecs dans un café à Munich ou je sais pas quoi. Et au début, c'était rien, quoi. C'est comme... t'as un microbe qui rentre dans l'organisme ça commence, quoi. Et ben, il a bien fallu qu'il y ait des gens qui viennent dans ce café, puis qu'à la fin, le café était plein, ils sont allés dans un café plus grand, puis ils ont fait un parti, et puis nazi, et puis c'est devenu encore plus gros. Mais il a bien fallu la participation de tout le monde. Les gens auraient pu arrêter ça. Donc il y avait quelque chose dans le langage de ce monstre qui correspondait à la jalousie, à la revanche, à l'esprit revanchard, au nationalisme, à plein de choses qui existaient dans les gens. Même chose avec les Serbes, les Croates, les musulmans qui s'entendaient très bien.
Les empreintes musicales.
En hommage à Isia, elle est si touchante, est une nouvelle chanson d'amour pour sa fille, sans doute celle qui aura le plus compté dans ses dernières décennies. Un merveilleux hommage, une chanson que chaque petite fille aurait voulu que son amoureux de papa écrive pour elle. C'est le premier morceau qui ouvre le dernier album studio de Jacques Higelin, Higelin 75, sorti chez Jive Epic Sony. Nous recommandons d'aller découvrir cet album, et notamment sa dernière chanson, Un peu comme un adieu, à feu et à sang, une chanson de 21 minutes où l'on sent en profondeur le véritable intérieur déchiqueté contre lequel l'artiste a dû se battre toute sa vie.
Elle est si touchante qu'autour d'elle tout chante l'amour de la vie. Si belle et si charmante qu'autour d'elle tout s'enchante. Elle est si sensuelle que mâle et femelle tombent en extase, se pâment et se pavanent devant sa caravane. Elle est si jolie, craquante et sexy, que ses fans adorent. Qu'elle rugisse et qu'elle ose, suggérée par ses poses, la danse du lion. Qu'est-ce qui la fait bondir, sauter et rugir, de colère ou de joie, de rage ou de plaisir. La marque boutée entre terre et ciel qui fait vibrer ses ailes rebelles. Rebelle. Elle est si touchante qu'autour d'elle tout chante la nuit comme le jour. Et parfois c'est cruel qu'on se flinguerait pour elle. Elle est si vivante, drôle et désarmante, qu'on toucherait du doigt ce qui vibre en elle, la toute petite parcelle de l'âme.
Là, tu viens de parler aussi de l'amour dans les trains. L'amour, pour toi, t'en as eu quand même pas mal. Est-ce que c'est facile?
L'amour, c'est le moteur.
Est-ce que c'est pas trop compliqué, ça?
Aimer, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Bien sûr, c'est contradictoire, c'est... Bien sûr que je demande à n'importe qui, la réponse ouais. Sera la même. Oh là là, t'as tout à apprendre, toujours. Il n'y a rien qu'on sache définitivement, rien. C'est complexe, c'est riche, quoi. Donc c'est complexe. Ça monte, ça descend, c'est électrocardiogramme, quoi. Ça bouge, hein. J'ai pas de leçon à donner, mais c'est juste c'est un éternel apprentissage, quoi. C'est comme la vie, quoi, t'apprends tout le temps. Je pense qu'au moment de mourir, t'apprends aussi à mourir. T'apprends tout, t'apprends toujours. Tu sais jamais. Si on avait que des certitudes, on bougerait plus. On serait mort, en fait. C'est ça, l'histoire. La vie, c'est une perpétuelle incertitude. Moi, l'autre fois, une phrase m'est venue en tête. Je me disais que l'homme était le fruit de l'arbre des contradictions. Et ça, c'est en chacun de nous. Toutes ces contradictions qui font qu'on est vivant. Avec les hauts, les bas, les périodes dépressives, les périodes positives, joyeuses, euphoriques, enfin un mélange. Et ça fait un tracé extrêmement riche, quoi, c'est la vie. Et même les périodes, même la tristesse, des fois ça peut être joyeux. Enfin, parce que ça donne, ça te fait plonger dans un état qui te fait... Je sais pas, c'est la phrase, on dit, tu connaîtras ta douleur. Tu vois, un jour, ouais. Et en connaissant, c'est la connaissance. Et la connaissance passe à travers tous les états. Donc, il n'y a rien qui soit négatif. Puisque tu as des gens qui sont pris des chocs terribles, des gens qui sont d'un coup retrouvés sur une chaise roulante, des jeunes gens en moto, en accident. Et je vois des gens aussi au concert qui arrivent des fois dans une chaise avec les gestes qu'ils n'arrivent pas à contrôler ni rien, et les regards sont... une grande puissance, quoi. Et ce qu'ils disent, parce que je parle beaucoup avec les gens, je les écoute aussi. Ils te disent des choses étonnantes, quoi. Sur ce qu'ils ont vu, comment ils l'ont reçu. Donc, notamment une femme qui m'avait dit, il y a 2-3 jours, 3-4 jours, qui m'a, à l'issue d'un concert, qui m'a dit, qui me disait comment ça lui avait remonté le moral de me voir et qu'elle avait, en fait, elle traversait une période où elle avait envie d'en finir, quoi. Donc, faut faire un beau travail sur ce que tu véhicules et sur ce que tu envoies, tu fais passer aux gens, parce que ça peut vraiment les aider. Comme moi, les chansons m'aident. Comme moi, l'œuvre des autres m'aide à avancer. C'est un enrichissement perpétuel, comme ça. On est cultivé par le temps, par le monde, par ce qui nous arrive, par les disparitions, par des gens qu'on aime, par les rencontres, les naissances. On est bouleversé par tous ces événements. Donc l'être humain est un terreau, un dépositaire de toute cette richesse du monde. Mais comme on est mortel et comme on est fragile, il peut en arriver des incidents, des accidents. Sinon, la vie serait plate, et effectivement, de toute façon, c'est pas envisageable autrement. Alors, c'est idiot de tergiverser là-dessus, parce que c'est des hauts, des bas, des moments durs.
Pour certains, la vie est quand même beaucoup plus stagnante, beaucoup plus reposée, beaucoup plus...
Oui, mais peut-être leur tempérament fonctionne avec ça. C'est vraiment des questions de caractère et de... On n'affronte jamais que ce qu'on est en mesure d'affronter. Il y a aussi des gens qui ont une vie apparemment qu'on croit sans aspérité, et pour peu qu'on les rencontre et qu'on les écoute et qu'on parle avec eux, on s'aperçoit que, je te dis, quelqu'un qui est dans une chaise roulante pourrait avoir une vie de mobilité réduite, et en fait son esprit fonctionne à une grande intensité, quoi. Donc tu peux pas, il n'y a pas de lieu commun là-dessus, on peut pas faire tirer des conclusions hâtives sur les apparences. T'as des gens, ils parlent jamais, mais ils écoutent tellement. Puis d'un coup, ils se mettent à écrire et tu vois ce qu'ils voient, quoi. Quand t'es devant un public, c'est que des individus, tous différents. Et je suis sûr que toi qui es en scène, qui as le don pour chanter, écrire des chansons, tu serais... d'ailleurs, je ne dis pas tu es surpris quand tu parles avec chaque personne de ce qu'elle fait de sa vie et qui te remet à ta place, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que tu brilles dans les projecteurs que tu es plus ou moins que quelqu'un qui te regarde. Il y a des gens qui savent pas faire ce que tu fais et qui viennent te voir d'ailleurs pour ça, pour entendre et voir un artiste qui s'exprime des choses qu'ils pensent eux-mêmes. Et puis qui eux-mêmes font des choses que tu serais peut-être pas capable de faire, quoi. Est-ce que je serais une bonne infirmière, tu vois ? Je veux dire, c'est un énorme boulot. Il suffit d'être passé 2-3 fois à l'hôpital pour savoir ce que c'est, quoi. La générosité et le savoir-faire et le savoir-vivre des gens ou des gens qui affrontent des situations très 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 dures et qui se comportent avec beaucoup de générosité, beaucoup de... qui se donnent vraiment, quoi. Et t'as des gens âgés aussi qui ont l'air si discrets. Les gens les plus discrets sont souvent des gens merveilleux. Et ça, on sait pas non plus. C'est pas parce qu'ils agitent pas les bras devant les médias ou je sais pas quoi, parce qu'on les voit pas, qu'on sait pas tout ce qui se passe. Souvent, je me mets dans la peau des gens. Je vois quelqu'un, je me projette. Et je me dis, tiens, si j'étais comme ça, je ferais quoi? Je dirais quoi? Comment je le prendrais? Et je vois des preuves continues de courage quotidien pour affronter la réalité du monde.
Les empreintes musicales.
Moi, la vie, je la trouve très belle. Je parle pas de ma position. Je parle de la vie, la générosité de la vie qui donne. Le soleil, il donne à tout le monde. La pluie, elle donne à tout le monde. Le vent, il donne à tout le monde. C'est un don, la vie. Tu prends, si tu vois, tu prends. Si tu vois pas, ben tu passes à côté. Voilà, c'est tout simple. Mais les hommes entre eux, ah ouais, il n'y a pas de prédateur plus plus dangereux. Pour la vie, pour l'existence même. Il n'y a pas de prédateur plus dangereux. Et tu connais, toi, un prédateur sur la planète qui a poncé de la bombe atomique, qui a inventé la bombe atomique, c'est-à-dire le moyen de détruire l'humanité. Faut être costaud pour accepter ça. Et ça n'a pas pu se passer sans que des gens acceptent, plein de gens, de construire la bombe, d'accepter les plans, d'envisager de détruire Nagasaki ou Hiroshima, qui ont fait un plan et qui ont sablé le champagne au moment où ça a explosé. Parce que j'ai vu quand même le documentaire à la télé où tu vois Von Braun en train de rire avec tous les savants et de boire le champagne en disant « Nous avons réussi ». Putain, des criminels qui disent « On a réussi », c'est quand même fort. Et que tout le monde dise « Ok, c'est bien ». C'est grave quand même. Tu connais un prédateur aussi cynique? Les animaux, ils tuent pour bouffer. C'est vrai que tout le monde bouffe tout le monde dans la nature. Et c'est une loi, mais tout le monde ne fait pas une organisation aussi avec l'intelligence de s'autodétruire, quoi. C'est pour ça que je te dis que l'humanité, elle est souvent sur le fil du rasoir.
Merci. Beaucoup, beaucoup.
C'est bien de temps en temps qu'il y ait des chansons de Charles Trenet, ça aère l'atmosphère.
Okay.
Ciao.
La cérémonie commence. Sans théâtre, ni public. Le travelling se met en place. Il se rapproche en douceur du plan final. Close-up sur ton visage immobile. L'équipe est silence. L'acteur est prêt, même s'il ne connaît plus son texte. Plus léger que la neige. Tu n'emportes qu'un rire, une larme, un soupir.
J'ai écouté ce titre en boucle autour de cette date du 6 avril 2018. Je l'ai même emmené avec moi alors que je partais de Bretagne en bus juste pour cette journée au Père Lachaise. Un joli hommage, une magnifique, délicate, spirituelle et aérienne chanson écrite quelques mois avant les décès de son père par Arthur Ashe. Un cœur qui s'apaise. Le passage, c'est le titre qui clôt le premier CD du double album Amour Chien Fou, paru quelques mois auparavant chez All Points par Arthur Ashe. Merci à Jacques Higelin, ce passeur d'idées, de chansons et de musique. Merci à lui pour ce merveilleux et généreux moment qu'il m'aura accordé pour cet entretien. On se donne rendez-vous pour ce même créneau horaire la semaine prochaine. Les empreintes musicales, l'émission, c'est fini pour aujourd'hui. Bises, bisettes, bisous, ciao, kenavo, à bientôt.
Un soupir. C'est le passage.